commençons par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bienveillant, toi qui es trois fois saint, majestueux, merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés dans l'ombre. Quant à qui tu es, Seigneur, on voit dans la nature, on voit en observant ce monde qu'il y a un Créateur, qu'il y a une intelligence suprême, une puissance suprême. Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés à devoir tâtonner par nous-mêmes pour essayer de trouver qui tu es. Merci de t'être révélé. Au peuple d'Israël, de t'être révélé ultimement à nous par la personne de ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné ta parole, Seigneur. Que tu as inspiré, que tu as gardé. Merci, Seigneur, pour sa clarté qui vient éclairer nos cœurs, pour la consolation qu'on y trouve, pour le fait qu'on peut savoir qu'on lit tes paroles, Seigneur. Merci pour la Bible, Seigneur. On te prie que ce matin, Seigneur, tu nous éclaires par elle, que tu éclaires nos vies, que tu éclaires nos relations, que tu viennes éclairer les coins sombres et que tu nous donnes l'humilité, Seigneur, pour se laisser transformer par toi. Merci pour notre Église. Merci pour nos enfants, les petits-enfants qui sont à la pouponnière, Seigneur. Veille sur eux. Sauve chacun d'entre eux, on te prie. Et nos enfants qui sont plus vieux aussi. Et nos enfants, peu importe leur âge, qui ne te connaissent pas encore, éclaire leur cœur. Éclaire, tout comme on t'invite à éclairer les nôtres ce matin. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, ce matin, on continue notre troisième dimanche dans notre étude du livre des Proverbes. Les Proverbes, un livre à peu près en plein milieu de votre Bible. Donc, si vous ouvrez votre Bible dans l'Ancien Testament, bien, si vous ouvrez votre Bible au milieu, vous allez atterrir proche des psaumes. Les Proverbes font partie des livres poétiques de l'Ancien Testament. Donc, Job, psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et Proverbes, 31 chapitres de sagesse en condensé. C'est comme si on avait pris parfois une histoire au complet, puis on l'a distillé, puis on en a ressorti l'essence. Ce qu'il y a de plus pur en termes de sagesse, et ça nous est livré un verset à la fois. Alors, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à méditer, à réfléchir. Les Proverbes parlent de toutes sortes de sujets. On a vu la semaine passée que les Proverbes parlent de l'usage de notre langue, du pouvoir de la parole. La parole qu'on a, dont on peut se servir pour dire la vérité ou pour mentir. La parole dont on peut se servir pour édifier, pour élever les autres, ou dont on peut se servir pour abaisser, pour détruire. Et ce matin, on va aborder un autre thème dont regorgent les proverbes, le thème des relations, et de savoir comment est-ce que les proverbes nous instruisent à propos de nos relations, comment est-ce qu'on peut rechercher la sagesse dans nos relations, tout en se souvenant que la clé de l'interprétation des proverbes, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors ce matin, on va parler des relations. Alors, on a toutes sortes de relations dans nos vies. D'habitude, quand on est, on a des parents. On a une relation avec nos parents. Ou sinon, on a des gens qui vont faire office de figure parentale dans notre vie. On est tous avec déjà cette relation-là, avec des parents ou des figures d'autorité parentale dans notre vie. Souvent, on va avoir des frères et sœurs. Je pense que ça prend pas très longtemps avant de se rendre compte que c'est pas super facile avec nos parents, puis c'est pas super facile avec nos frères et sœurs, mais on les aime, mais des fois on les aime pas. Ils font pas ce que nous on veut. Et les relations peuvent être tendues, ça prend du pardon, ça prend de l'amour pour être capable de passer par-dessus les obstacles. Et là, quand on vieillit, bien, on a des amis à la garderie, on a des amis à l'école, on a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, on a de la famille, on a des relations à l'église. Donc, les autres petits amis à l'église, les adultes à l'église. Et quand on grandit, bon, les collègues de classe, puis ensuite les collègues de travail. Puis peut-être un jour, certains d'entre nous, on s'est mariés ou on espère se marier. Puis là, on arrive avec la relation, probablement avec le plus grand potentiel de bénédiction et de sanctification dans notre vie, le mariage. Sans doute la relation sur laquelle il y a le plus d'encre qui a coulé. Et à juste titre, parce que le mariage a le pouvoir de révéler nos cœurs et de nous appeler, et le mariage nous appelle à changer, nous appelle à être transformés. Et on a aussi, souvent après le mariage, ce qui arrive, c'est qu'il y a des enfants qui arrivent. Alors, on a une nouvelle sorte de relation, on devient parents, plusieurs d'entre vous, vous êtes parents, vous avez des enfants. Alors, on a toutes sortes de relations, la famille, le travail, les amis, les voisins, les gens qu'on va croiser. Alors, notre vie est remplie de relations. Et ce n'est pas toujours facile, les relations. Lorsqu'on reste en surface, c'est peut-être facile, mais ce n'est pas satisfaisant. Mais si on veut aller en profondeur, c'est là qu'il y a le potentiel d'avoir des relations vraiment satisfaisantes, mais c'est là aussi que le potentiel de friction arrive. On a été créé pour être en relation. Lorsque Dieu a créé Adam, tout ce qu'il avait fait était bon, mais Adam était seul comme être humain. Oui, il y avait des animaux, mais il est en relation avec Dieu, comme inférieur, comme soumis à Dieu. Il y avait une relation avec les animaux. Il était placé en autorité sur les animaux, mais il n'y avait pas d'égal à lui. Il n'y avait pas d'autre humain. Et c'était la première chose que Dieu a dit qui n'était pas bonne, que Adam soit seul. Ce n'était pas juste question du fait qu'il n'était pas marié. Alors, ce n'est pas essentiel d'être marié pour être chrétien ou pour être tout ce que Dieu y veut pour nous. Non, à certains, le Seigneur donne le célibat, à d'autres, le Seigneur donne le mariage. Mais Dieu a créé Ève pour être une compagne pour Adam. Et de la même façon qu'on soit marié ou pas aujourd'hui, on est appelé à avoir toutes sortes de relations et Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres. De la même façon que Dieu lui-même est en relation avec lui-même. La seule façon que c'est possible, c'est si Dieu est plus qu'une personne. Et Dieu, comme Dieu trinitaire, trois personnes en une seule essence, un seul Dieu, un Dieu, mais en trois personnes, dont les trois personnes de la Trinité, depuis l'éternité passée, sont en relation d'amour les uns avec les autres. Et Dieu nous a créés pour refléter cette unité dans la diversité. Nous a créés pour qu'on soit unis dans nos relations. Pas au même niveau que Dieu lui-même, mais certainement Dieu nous a créés pour être en relation, tout comme lui est un Dieu qui n'était pas seul. Il est en relation avec lui-même. Il nous a créés pour qu'on soit en relation. Mais avec les relations viennent toutes sortes d'épines et d'embûches. Alors ce matin, j'avais 7 pages de proverbes qui traitaient des relations. Et j'ai essayé de les condenser en 3 domaines particuliers qu'on va regarder aujourd'hui. Et les voici. Le premier, c'est le domaine de l'orgueil et l'humilité. Le deuxième, c'est le domaine des conflits ou des disputes, puis le rôle que la colère vient jouer là-dedans. Puis troisièmement, comme Mario l'a deviné, la question de l'amitié, le domaine de l'amitié. Alors, le plus grand obstacle à l'amitié, le plus grand obstacle à nos relations, c'est moi. C'est le fait que je suis pécheur, que je suis orgueilleux, que je suis égoïste. Alors, des fois, quand on a des problèmes, c'est toujours l'autre, mais la bonne façon d'aborder les problèmes dans notre vie, dans nos relations, c'est que la plus grande difficulté que vous allez avoir dans vos relations, c'est vous-même. On ne peut pas changer les autres, mais Dieu nous appelle à changer nous-mêmes par sa force, par sa puissance. Alors, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, ils l'ont fait par orgueil, ils ont voulu être des dieux, eux aussi, c'est venu tacher toutes les relations humaines. Et toutes nos relations, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos collègues, nos amis dans l'Église, l'orgueil vient un peu comme une racine qui produit toutes sortes de problèmes. Puis si c'est pas nous le problème, c'est rarement jamais nous le problème, mais il y a de l'orgueil partout et ça vient causer toutes sortes de problèmes. Et on peut penser, on est dans une société tellement individualiste, ça doit être pire. Je suis sûr qu'à l'époque de Salomon, il y a 3000 ans, c'était des sociétés plus culturelles, les enfants devaient avoir beaucoup de respect pour leurs parents. Et j'ai trouvé ce passage qui était... Ah, ça me rappelle Benoît. Non, le péché était là aussi. Les paroles de Agur dans Proverbes chapitre 30. Nous dit dans les versets 11 à 14, il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Bon, il y a 3000 ans, là. Il dit ça. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, aucun respect pour leurs parents. Vous savez, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau de votre génération que les jeunes n'ont pas de respect pour leurs parents. C'était déjà là il y a 3000 ans. Alors, et il dit, une génération qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère, et continue. Au verset 13, il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Une génération arrogante et orgueilleuse. Qu'est-ce que les proverbes nous disent à propos de l'orgueil? Qu'est-ce que Dieu en pense? Voici le verdict divin au sujet de l'orgueil. Dans Proverbe 6, verset 16, il y a une liste de choses qui commence. Il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept dont il a en horreur. La première qu'il mentionne, c'est les yeux hautains, se penser meilleur que les autres, l'orgueil. Ensuite, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Ça, c'est la sagesse qui parle. Dans Proverbes 8, 13. Ensuite, tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Proverbes 16, 5. Alors, le Seigneur ne trouve pas que l'orgueil, c'est bon, c'est un petit péché mignon. Non, il l'a en horreur. Dieu a en horreur notre orgueil. Entre autres, parce que l'orgueil vient amener toutes sortes de problèmes. Et l'orgueil cause le mépris et les conflits. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, 2. Ensuite, en 13, 10, ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ça nous dit que l'orgueil, même, c'est une folie. La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses. Tandis que les lèvres des sages les en préservent. Alors, on n'a pas un très beau portrait de notre orgueil, chers amis. Nous sommes tous orgueilleux. Si vous êtes humain, vous êtes orgueilleux. Vous pensez que vous êtes meilleur qu'au moins certaines personnes dans certains domaines. Et ça fait votre fierté. Peut-être que vous trouvez une certaine valorisation dans ça, dans le fait, ah ben je suis meilleur que tel collègue, ben au moins je suis pas un aussi bon parent que mes parents l'ont été envers moi, ou bien ah ben peut-être que mon frère lui est plus obéissant, mais au moins moi je suis moins hypocrite. Alors on a toujours des bonnes raisons pour être meilleur que les autres. Et c'est notre orgueil qui vient nous on vient chercher notre valeur là-dedans. Mais quelles sont les conséquences de vivre dans l'orgueil? À l'inverse, quelles sont les conséquences de vivre humblement, avec humilité? Il y a plusieurs proverbes qui parlent de ça. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. L'Éternel détruit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. Proverbe 15, 25. Écoutez ceci, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tous ceux qui vont goûter à la vraie gloire, ça va être manifesté par de l'humilité premièrement. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Lui qui s'est humilié au plus haut point en venant souffrir la croix pour nous et qui a mérité la plus haute gloire suite à son humilité. Quel exemple pour nous! Suite les conséquences de l'orgueil, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil d'un homme le conduira à son humiliation, Proverbe 29-23, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Tantôt j'ai cité aussi Proverbe 16-18 et 16-5. Alors, quelques conseils pour vivre humblement. Il y en a deux ici que j'ai ressortis. Premièrement, ne fais pas l'important. Voici les paroles de Salomon. Proverbe 25, versets 6 et 7. « Ne fais pas l'important devant le roi. Ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. » Ça rappelle une parabole que Jésus a racontée aussi. Lorsque tu vas à un festin, assois-toi pas aux bonnes places d'abord. Non, assis-toi aux places humbles. C'est bien mieux pour toi qu'on t'invite à t'asseoir à une place plus élevée que pour toi de te penser plus important. Ah, ouais, cette personne-là, ah, ouais, ouais, je suis plus important que cette personne-là. Je peux m'asseoir avant cette personne-là. T'es mieux de te faire monter en première classe que de prendre pour acquis que tu es en première classe puis de te faire dire non, vous n'êtes pas en première classe, madame, désolé. Vous allez dans les sièges économiques. Oups. Alors, ne faisons pas l'important. Notre deuxième conseil pour vivre humblement, ne pas se vanter. Ça, c'est un proverbe que ma mère nous rappelait constamment lorsqu'on était enfant. Proverbe 27:2 qui nous dit « Que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Que quelqu'un d'autre dise du bien de toi. » Pas besoin de dire, pas besoin de faire ta propre publicité, là. On n'est pas en entrevue d'emploi, là. Qu'un autre te loue, et non ta bouche. Un étranger, et non tes lèvres. C'est-à-dire que comme bons amis, alors, on veut faire la louange des autres à nos côtés. Au lieu de chercher à se vanter nous-mêmes, on va chercher à élever ceux qui sont autour de nous, identifier les bons coups des autres, les féliciter pour les belles choses qu'ils ont faites. Vous savez, on se souvient 10 fois plus des défauts qu'on se fait dire ou lorsqu'on se fait dire quelque chose de négatif que lorsqu'on se fait dire quelque chose de positif. Alors souvent, ça en prend 10 fois plus pour équilibrer un commentaire critique dur. Alors, soyons prompts à s'élever les uns les autres, à souligner le bon dans les autres, puis on n'a pas besoin de le faire en nous. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, d'ailleurs. Notre valeur est en sécurité, à la croix. Dieu nous a adoptés comme ses enfants si on a reçu Jésus. Alors, on n'a pas besoin de chercher notre valeur dans ce que les autres pensent de nous. On n'a pas besoin de se vanter. Voilà pour l'orgueil et l'humilité. C'était le plus court de nos trois domaines. Ensuite, on arrive dans le domaine des conflits. On ne peut pas avoir de relations durables et profondes sans avoir des conflits ou des désaccords, au moins de temps à autre. Et les proverbes parlent beaucoup de la colère avec les conflits. Vous savez, dans la vie, dans toute relation durable, dans toute relation profonde, on va avoir des désaccords, des façons différentes de faire les choses, des points de vue différents. Et c'est normal, on n'est pas identique. Et c'est une bonne chose qu'on ne soit pas identique. On s'aide les uns les autres à voir nos angles morts. Lorsqu'on est amis avec le mariage, on devient mieux équipé pour gérer une variété de relations dans la vie parce qu'on puise de l'expérience de quelqu'un d'autre. dans l'Église, c'est ça aussi, l'amitié, c'est ça aussi. On veut profiter de l'expérience des autres aussi. Et si notre expérience peut être profitable aussi, bien tant mieux. Alors, c'est normal d'avoir des conflits dans le sens que c'est normal d'avoir des désaccords, puis d'avoir besoin d'en parler, surtout si on doit prendre des décisions ensemble. OK, où est-ce qu'on va manger pour dîner? Ah, on va au Saint-Hubert. Ah non, pas encore le Saint-Hubert. Moi, je voulais aller manger de la pizza. Ben, fait que là, il faut qu'on s'entende, on a un désaccord. Puis là, on parle de quelque chose de simple, on choisit, OK, ben, c'est-tu correct si on peut-tu trouver un autre restaurant qui a à la fois de la pizza et du poulet? Ou bien, ah, cette fois-ci, on va aller à la pizza, puis une prochaine fois, on ira au Saint-Hubert. Bon, c'est un petit exemple de désaccord qu'on peut avoir. Mais lorsque mes besoins, mes désirs ne sont pas comblés, lorsque la personne n'est pas exactement d'accord avec moi, qui a bien sûr la meilleure idée du monde, alors c'est bien rapide pour la colère de s'élever en nous. Et les proverbes parlent énormément de la colère en lien avec les conflits. Et voici le verdict divin sur la colère. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe 12, 16. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe 14, 29. Écoutez celui-ci. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. On parle d'une époque où ce qu'il y avait de plus héroïque, c'était de conquérir des villes, de dominer tes ennemis. Et le Salomon nous dit ici qu'être lent à la colère, c'est mieux qu'être un héros. Être maître de soi, c'est mieux que de s'emparer de villes. Quelles sont les conséquences de la colère? Eh bien, en général, lorsqu'on se met en colère, c'est rare qu'on ait dans une colère, une sainte colère. Ou bien un petit peu de sainte colère, puis beaucoup de colère. Moi, je suis fâché, on m'a fait injustice à moi. Quelles sont les conséquences de la colère? Le colérique pousse au conflit, l'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. Proverbe 29, 22. Qu'en est-il pour la maîtrise de soi? 15, 18. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est normal d'avoir des désaccords. Mais est-ce que la colère, c'est notre façon de réagir au conflit? Ou bien est-ce qu'on veut être lent à la colère? On veut être patient, garder le ton calme pour gérer nos conflits. Quelle est la source de nos conflits? Proverbe 13, 10. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alors, notre orgueil va souvent mener à des conflits. Et même la haine, Proverbe 10, 12, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Et pour avoir une colère, un conflit qui escalade, bien, ça prend au moins une personne qui va critiquer. Et qu'est-ce qui arrive quand on est dans un désaccord, lorsqu'on est dans un conflit, il n'y a personne qui escalade, il n'y a personne qui critique, qui hausse le ton, bien ça va redescendre. Proverbe 26, 20, 21 compare ça à un feu. Ça dit quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Ou là maintenant du charbon. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et il faut un homme querelleur pour attiser une dispute, pour rajouter du bois dans le feu, pour jeter de l'huile sur le feu, comme on dit aussi, en relancer un peu, là, que ça reparte. Mais s'il n'y a personne qui rajoute, alors ça va finir par s'apaiser. Proverbes 6, 16 et 19 disent, on est dans la liste, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il y a horreur. On a vu tantôt les yeux hautains, l'orgueil. Puis on voit aussi le 7e de cette liste-là, celui qui provoque des conflits entre frères. On ne parle pas de désaccord régulier, mais celui qui provoque des conflits. Pour tous ceux qui ont lu, les Proverbes, il y a quelques paroles qui, moi comme homme, ça, je suis un peu mal à l'aise de dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il y a un avertissement particulier qui est donné aux dames, qui est donné aux mesdames, qui parle de la critique constante, qui parle d'une femme querelleuse. On voit dans le Proverbe 31 l'exemple d'une femme vertueuse, mais 4 fois, on a 4 proverbes qui parlent de la femme querelleuse. Premièrement, à quel point c'est désagréable de vivre avec elle. Dans Proverbe 21-19 dit, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » 25-24 en rajoute, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. » T'es mieux d'habiter dans le désert, t'es mieux d'habiter au coin du toit que d'habiter dans la maison avec une femme querelleuse. Et ça continue. 19-13 dit, « Un fils stupide est une calamité pour son père. » Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Une femme qui critique constamment, c'est comme ta gouttière qui découle sans arrêt. Encore dans 27-15, répète l'image, une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et une femme querelleuse se ressemble. Celui qui les retient, retient du vent et sa main cherche à attraper de l'huile. Alors, mesdames, et peut-être, messieurs, certains d'entre vous que vous avez cette tendance-là aussi à critiquer constamment, les proverbes vous lancent un avertissement particulier. Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à critiquer tout le temps, surtout les personnes qui habitent dans ta maison, à rappeler constamment à quelqu'un de faire quelque chose, être constamment sur son dos tant qu'il ne fait pas? Bien souvent, on se sent justifié d'offrir ce genre de critique. Peut-être particulièrement pour mesdames que votre mari est paresseux. Je suis paresseux. Et ou bien qu'il ne, vous trouvez que votre mari pense qu'à lui, qu'il s'occupe de rien dans la maison. Bon, peut-être que rien, c'est un peu exagéré, mais il s'occupe de rien dans la maison. Alors, oui, votre mari a sa part de responsabilité. Mais de la même façon que son comportement paresseux peut-être est loin d'être une bénédiction, la critique constante est une malédiction pour votre mari ou pour les gens avec qui vous habitez. Alors, messieurs ou mesdames qui êtes paresseux et qui êtes l'objet de ce genre de critique, bien, surtout, messieurs, je pense qu'on a plus naturellement ce gène de paresse-là, d'être paresseux dans la maison. On doit être responsable. On doit prendre l'initiative. On doit être un leader. De ne pas attendre de se le faire demander avant de chercher comment est-ce que je peux aider. Plusieurs hommes qui disent, « Ben, tu as juste à me le demander, puis je vais le faire. » Mais c'est cette pression constante que la femme doit vivre. Je dois penser à tout ici. J'ai du travail à faire là-dessus, moi aussi, en passant. Hein? Mes frères, mais soyons des hommes responsables. Lorsqu'on laisse à notre épouse le soin, le poids de penser à tout, on n'est pas en train d'être un bon leader. On n'est pas en train de faire preuve d'initiative. On est souvent en train d'être égoïste. On va penser à nos choses. On va penser à notre lunch. On va penser à notre linge, hey, mon linge n'est pas propre. On va penser à nos choses, mais à quel point est-ce qu'on va penser faire le pas de prendre soin de la maison. Prendre soin que ce ne soit pas votre femme qui a besoin de penser à tout, ou messieurs qui espérez vous marier un jour, ben, commencez à planifier ça. Je sais que vous travaillez fort au travail, messieurs. Peut-être que votre femme aussi travaille fort. Puis en plus, elle a le besoin de travailler fort à la maison. Tu dis, ah, ben, je travaille 8 heures par jour, je travaille 12 heures par jour. Mais souvent, les mamans hein, ou les femmes à la maison vont en travailler 14, 16 heures par jour. C'est pas de tout repos, s'occuper d'une maison. Alors, mes frères, on doit prendre l'initiative. Être proactif. Être des leaders. Être des serviteurs. Néanmoins, mes sœurs, la critique constante détruit. Et les proverbes nous révèlent l'horreur que c'est de vivre avec une femme qui se comporte ainsi. On a chacun notre part de responsabilité. Si on est dans cette situation, le classique, là, ben nous, les gars, on doit mettre nos culottes, puis prendre nos responsabilités, puis être des serviteurs, puis être proactifs, puis prendre l'initiative. Puis, mesdames, ben peut-être descendre un peu la quantité de critique. De la critique constante. Les proverbes nous disent essentiellement que c'est une malédiction, que tu es mieux de vivre dans le désert, que tu es mieux de vivre à l'angle du toit que d'habiter dans une maison où une femme a ce genre de comportement-là. Alors, on revient à nos conflits. J'aimerais vous laisser quelques conseils pour faire face aux conflits dans vos vies. Alors, on parle, là il n'est pas question de désaccord, mais où est-ce que ça monte, puis ça escalade, puis là, on devient fâché, puis on n'a plus le bien de l'autre à cœur, on a notre justice à cœur. Proverbe 23 dit, « C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. » Le premier bon conseil pour comment gérer vos conflits, c'est, ben évitez-les. Si on réduit notre nombre de conflits, ça va déjà être ça de moins à gérer. Parfois, ça va vouloir dire se retirer avant que ça éclate. Je ne suis pas en train de dire de s'enfuir de nos responsabilités, mais sentir la pression monte, l'eau est en train de bouillir, là, OK, bon, on va enlever la marmite de sur le feu, on va la mettre à côté, on va laisser l'eau se refroidir, puis ensuite, on va pouvoir aller se mettre les mains dedans pour travailler. Proverbe 17:14 dit... S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Si on sent la pression monter, retirons-nous. Si on sent qu'on va se mettre à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, bien, retirons-nous. Allons prier. On peut se mettre soi-même, en anglais, comme on dit, en time-out. Je vais aller me mettre dans le coin. Je vais aller me calmer. Je vais aller prier, puis ensuite on va revenir, puis on va pouvoir travailler avec le conflit. Proverbe 3, 29 à 30 dit, « Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. » Combien souvent on pourrait dire, « On s'est chicané là, mais c'était pour des niaiseries. » C'était pour un petit n'importe quoi. Puis là, ça a escaladé, c'est devenu une grosse affaire. Puis là, on s'est dit des choses blessantes, on s'est fait du tort. Le proverbe nous rappelle, ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Les proverbes nous invitent à être calmes, à demeurer calmes. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe 15:1. Proverbe 15:18, un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Soyez patient. Proverbe 25:15, parle de patience aussi. Par la patience ou la lenteur à la colère dans Louis II, on peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute résistance. Intéressant, une langue douce peut briser toute résistance. À celui qui est humble, qui demande quelque chose, pour le bien de tous, pas pour sa propre justice ou son propre plaisir, par une langue douce peut briser toute résistance, par la patience, par la persévérance. Beaucoup de matière à réfléchir, hein? Beaucoup de choses à réfléchir sur nos conflits. Alors, on a vu ce que les proverbes disaient dans nos relations par rapport à l'orgueil, à l'humilité. On vient de voir ce qu'ils disent par rapport au conflit, par rapport à la colère aussi. Et dernièrement, troisième section, le troisième domaine dans lequel les proverbes nous parlent, c'est celui de nos amitiés. Qui a des bons amis? On peut peut-être se dire que c'est rare d'avoir des bons amis. Des amis fidèles, des amis qui durent. Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes déracinés de votre pays pour venir ici, de votre famille, de probablement plusieurs de vos amis les plus proches. Et là, vous êtes arrivé au Canada, ou vous êtes arrivé à Montréal, ou bien vous êtes joint à l'église dernièrement, puis c'est pas facile de se faire des amis. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. Mais on a besoin de bons amis. Et on a besoin aussi de bien choisir ses amis. Les proverbes nous parlent des dangers des mauvaises influences. Peut-être plus vieux, on a moins cette tentation-là, c'est peut-être plus lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, qu'on doit particulièrement faire attention. Je parle à vous, les enfants, les ados dans la salle. L'importance de bien choisir vos amis. Au début, dans Proverbe 1, tout de suite après l'introduction, Salomon commence le premier de ses discours. Dans les chapitres 1 à 9, c'est non pas juste des petites vérités comme celles que je cite depuis tantôt, mais un discours sur l'importance de bien choisir ses amis ici, ou sur les mauvaises compagnies. Dans Proverbe 1:10, Salomon dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, « Viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. » Et là, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire du profit à extorquer les gens ou à battre les gens ou à tuer des gens. Alors, on pourrait se dire, wow, c'est un peu extrême, là, Salomon, moi, je ne vis pas ça aujourd'hui. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu ce genre de choses-là. Le danger de glisser dans un gang de rue. Et c'est pas absent. Ce genre de discours-là, moi, je m'imaginais, ben non, ça n'existe pas au Canada. Non. Non, ça existe. Et de bien choisir nos amis, ça peut avoir un énorme impact sur quelle direction on va prendre avec notre vie. Sachons bien choisir nos amis. Une autre chose qui rend ça difficile d'avoir des amis, c'est que ce n'est pas tous ceux qui se disent amis qui le sont nécessairement. Les proverbes parlent beaucoup du riche qui a beaucoup d'amis. Ça dit, le pauvre est détesté même par son prochain, tandis que les amis du riche sont nombreux. Tout le monde veut être l'ami d'un riche, n'est-ce pas? Dans 19.4, la richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Cependant, les proverbes nous disent qu'un bon ami, c'est plus précieux que tout. Probablement ce verset, peut-être le proverbe que vous connaissez le mieux, Proverbe 17.17 dit, « L'ami aime en tout temps. » Et dans le malheur, il se montre un frère. Un ami qui ne vous laisse pas tomber parce que vous n'avez plus d'argent. Comme plusieurs des amis du riche, qui, une fois qu'il devient pauvre, là, on n'est plus ami avec lui. Non, un bon ami aime en tout temps. Il reste avec vous. Proverbe 18:14 parle encore de à quel point avoir un bon ami, c'est plus précieux que tout. Il dit, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Il y a des amis plus précieux que la famille. Et je veux qu'on s'encourage. Je veux ce matin qu'on puisse entretenir. Je veux nous encourager à entretenir nos amitiés, à chercher nous-mêmes à être un bon ami. Peut-être que vous vous demandez, bien, j'ai pas de bon ami. J'ai personne avec qui être ami. Alors, tu ne peux pas causer les gens d'être tes amis, mais toi, tu peux être un ami pour les autres. Toi, tu peux être fidèle pour les autres. Toi, tu peux être là pour les autres. Alors, la meilleure façon d'avoir des bons amis, c'est de soi-même commencer par être un bon ami pour ceux qui nous entourent. Et l'amitié nous fait de très grands bienfaits. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Un peu comme je partageais tantôt, le fer aiguise le fer. Lorsqu'on a des vraies amitiés réelles, profondes, on peut se parler des vraies choses, ou on se partage les vraies choses. Alors ça, c'est comme du fer qui s'aiguise l'un l'autre. Un couteau qui devient de plus en plus utile, qui devient de plus en plus efficace. On devient des gens de plus en plus sages au contact de bons amis. Les Proverbes nous donnent quelques conseils pour être des bons amis. Il y en a six qu'on va regarder. Puis le sixième, c'est une section en soi, on va en parler un petit peu plus. Tout d'abord, recherche le bien de tes amis. Au lieu de dire « qu'est-ce que lui a fait pour moi? », dire « qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? ». Proverbe 25, 27 dit « Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » On recherche le bien de nos amis, on recherche la gloire de nos amis. Deuxièmement, n'abandonne pas ton ami. 27:10 dit « N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père. » Ça dit « S'il n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Pas profiter des gens non plus. Mais le point sur lequel je voulais mettre l'emphase, c'est « N'abandonne pas ton ami quand il est dans la détresse. N'abandonne pas ton ami lorsqu'il est dans la souffrance. N'abandonne pas ton ami lorsqu'il vit un deuil. » Troisièmement, ne trahis pas tes amis. Proverbe 25, 19 dit, une dent, il fait une comparaison là, une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. Peut-être que tu as vécu ça dans ta vie, la trahison. Quelqu'un à qui tu faisais confiance, peut-être la personne à qui tu faisais le plus confiance, tes parents, ton conjoint, quelqu'un que tu aimais, la famille. Peut-être que tu vis encore des douleurs de ça. Ça serait peut-être le sujet pour quelque chose d'autre. Au minimum, Jésus te comprend. Jésus, lui aussi, a été trahi par un de ses amis les plus près. Et lui, il est l'ami qui ne te trahira jamais. Lui, il est fidèle. Quatrièmement, fais attention à ton humour. Proverbe 26, 18, 19 dit, fait une comparaison aussi, « Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort, voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit, « N'était-ce pas pour plaisanter? » Le genre d'humour qu'on fait, parfois. On dit, ah non, mais c'était une joke. Non, c'était pas vrai, c'était pour rigoler. Faisons attention à notre humour. Puis bon, il y en a qui sont plus soupolés que d'autres aussi. Il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Moi, je fais partie des un peu plus susceptibles aussi. Alors, mais faire attention à notre humour. Des fois, on dit, ah, c'est pour rire, c'est pour la rigolade, mais nos paroles vont blesser. On va être en train de détruire au lieu d'élever. Cinquièmement, pardonne à ton ami. Si ton ami t'a dit quelque chose de blessant, si ton ami peut-être t'a fait quelque chose que tu considères une trahison, pardonne. Proverbe 10, 12 dit « La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Le véritable amour va pardonner. Va passer par-dessus des offenses. On le voyait tantôt, non, mais celui-ci, Proverbe 17, 9, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Si tu as pardonné, alors tu ne rappelles pas. Peut-être que ton ami t'a fait quelque chose puis que tu as besoin de lui en parler, que ça t'a fait de la peine, que tu dois lui demander « Ça m'a fait de la peine quand tu as fait ça. » Ou quand tu m'as dit ça, ou quand tu n'as pas fait ça, ou quand tu n'as pas dit ça. On va en parler, ça c'est notre sixième. Donner des conseils ou faire des reproches. Mais avant d'aller faire un reproche, parfois la première chose à faire, c'est juste décider de passer par-dessus. C'est correct. Je suis capable de lui pardonner. Je n'ai pas besoin de lui reprocher ça. Je peux lui pardonner. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense, nous dit Proverbe 9, 11. Mais le pardon, ça se donne. On n'a pas besoin que quelqu'un nous demande pardon pour lui pardonner. Mais lorsque nous, on a fait des torts aux autres. Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas ou ne prospère pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Si tu demandes pardon, si tu avoues tes péchés à ton ami, à ceux qui t'entourent, lorsqu'on cache nos transgressions, lorsqu'on dit « Mais non, je ne voulais pas te faire de la peine. » On dit « Ah, t'es bien susceptible. Ah, t'es bien sensible. Voyons donc. Mets-toi une carapace un peu, là. » C'est rache. Je te demande pardon de t'avoir fait de la peine. Je ne voulais pas te faire de la peine, mais je vois que ça te fait de la peine. Je te demande pardon. Je vais faire attention dans le futur. Notre dernier conseil pour être des bons amis, c'est oser parler. Des fois, on voit quelqu'un, un de nos amis, qui a un comportement qui ne l'aide pas, qui agit d'une certaine façon que ça nous blesse, ou qui a l'intention d'aller dans une certaine direction, puis on est un peu inquiet pour cette personne-là. Les bons amis vont oser parler. Les bons amis vont oser conseiller, et les bons amis vont accepter les conseils. D'ailleurs, les proverbes nous font ces deux phrases qui sont parmi les plus importantes par rapport à l'amitié. Proverbe 27, 5 dit, « Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. » Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Et tout de suite après, le prochain verset, Proverbe 27, 6 dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures, on ne parle pas d'un coup de couteau, là, mais on parle d'oser dire quelque chose de pénible à entendre, qui nous fait de la peine, qui ça me fait mal t'entendre dire ça. Mais lorsque nos amis nous aiment assez pour nous faire part des comportements, des choses qu'on fait, des choses qu'on dit qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont pas bonnes pour les autres, ou peut-être qu'on est en train de désobéir à Dieu, puis quelqu'un ose nous le dire, ça... Ah! Ma vie privée? S'il vous plaît! Aujourd'hui, la vie privée, c'est très important. On ne se mêle pas trop de la vie des autres. Comme ça, ils ne se mêleront pas trop de la mienne. Parfait. Mais notre société est tellement individualiste, je pense que ça affecte nos amitiés. Ça affecte le fait qu'on a de la difficulté à se conseiller, puis on a premièrement de la difficulté à recevoir des conseils et des reproches des gens qui nous aiment. Alors souvent, on n'ose pas parler. Souvent, on n'ose rien dire. Mais les bons amis vont à la fois oser parler d'une bonne façon et les bons amis vont oser écouter. Voyez comment un bon conseil et précieux. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui sait écouter. C'est quelque chose de très précieux. Si on sait écouter les reproches de quelqu'un de sage qui vient nous voir. Certainement, ça peut être mal fait. Et peut-être qu'en voulant dire quelque chose à quelqu'un, on se ramasse à... On ne sait pas comment bien le dire, puis là, on fait plus de tort que de bien. Ou bien peut-être que lorsque quelqu'un a voulu venir nous reprocher quelque chose, oh, ça a été dur à prendre. Mais on en a de besoin. Proverbe 11, 14 dit, « En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » C'est bon pour nous d'avoir des conseils, non seulement de nous-mêmes, mais des autres. 15, 22 dit, « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. » Lorsqu'on va demander conseil, lorsqu'on ose demander conseil, pas juste aux gens qui vont te dire ce que tu as le goût d'entendre, mais lorsque tu vas oser demander conseil aux gens qui vont oser te dire ce que tu n'as peut-être pas le goût d'entendre. Savoir écouter des conseils, les proverbes nous révèlent, ça peut amener de grandes conséquences, autant pour le bien que pour le mal. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement ou la réprimande s'égare. Proverbe 15, 31 dit, « Certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. » Et pour nous tous qui avons de la difficulté à écouter des reproches, Proverbe 29, 1 dit, « L'homme, ou on pourrait dire l'homme ou la femme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire, sera brisé tout d'un coup, sans remède. » C'est pas facile d'oser écouter les conseils, d'oser écouter les reproches. Mais ça nous mène à la sagesse, comme on le vit. Il est sage d'écouter les conseils. 12, 15. Encore dans 13, 10, la deuxième moitié, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. 15, 32. Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Wow, ça c'est intéressant. C'est pas celui qui néglige l'instruction méprise celui qui le lui dit. Non, celui qui méprise l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Et à la fin, j'ai trouvé bien intéressant que il y a ce proverbe-là aussi qui nous parle de la nature des conseils, la nature des reproches. Proverbe 21:30 dit, « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. » Peu importe les conseils que tu reçois, s'ils te placent contre l'Éternel, en désobéissance envers Dieu, tu peux recevoir des conseils extrêmement bien intentionnés. Mais si tu te rends compte qu'ils t'appellent à agir contre ta conscience, à agir contre la parole de Dieu, à agir contre la volonté de Dieu, ces conseils-là ne tiennent pas devant lui. Il n'y a aucune sagesse, aucune intelligence, aucun conseil qui tient contre l'Éternel. Lorsque j'essayais de réfléchir à des exemples de bons amis dans la Bible, évidemment, on pense à David et Jonathan. Jonathan qui, lui, était héritier au trône, qui aurait eu tout à gagner pour lui-même que David soit éliminé, mais qui lui-même a été prêt à donner sa vie pour David. Son père a failli le tuer même parce qu'il cherchait à protéger David. Ils ont fait une alliance et une amitié très, très profonde. Au niveau de la fiction, Peut-être un exemple que plusieurs d'entre vous connaissez, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, l'amitié entre disons, un des héros de l'histoire, Frodo, celui qui doit porter l'anneau jusqu'au Mordor, et Sam, son jardinier, qui est en fait son meilleur ami. On voit à de nombreux endroits, dans les films, si vous avez vu les films, dans les livres, si vous avez vu les livres, à quel point Sam a le bien de Frodon à cœur. À quel point Sam est prêt à tout pour protéger Frodo, pour son bien. Lorsque à la fin du premier film, Frodo, donc, si vous les avez vus, il y a les orques qui sont en train d'attaquer, puis le Frodo, il s'enfuit. Il dit, je vais aller tout seul au Mordor. L'anneau, ça, c'est ça que ça amène. Ça amène juste des malédictions pour les gens avec moi. Je suis aussi bien d'y aller tout seul, puis qu'il n'y a personne d'autre qui a à vivre les malheurs qui arrivent lorsque je porte cet anneau maudit. Mais Sam, qui voit Frodon s'enfuit, dit, non, non, reviens-t'en. Puis là, il est en bateau, il dit, non, Sam, je m'en vais, bye. Puis il dit, oh non, tu t'en vas pas, tu t'en vas pas sans moi. Puis là, il se jette à l'eau, il ne sait pas nager, puis il passe à deux doigts de se noyer là. On pourrait dire, mais il est fou. Frodo, il a dit qu'il s'en va. Mais l'amour que Sam a eu pour Frodo l'a fait virer de bord, puis il est allé le chercher. Puis Sam, il lui rappelle ce que Gandalf lui avait dit, ne le perds pas, Sam, ne le perds pas. Ah, puis il n'était pas question que Sam y perde Frodo. Je pensais à deux autres épisodes lorsqu'il est face à l'araignée, la grosse araignée géante qui avait pris Frodo, puis il est prêt à mourir. Il va aller sauver son ami. Il fait face au plus gros cauchemar qu'il ait jamais vu de sa vie, mais il va aller chercher son ami. Puis à la fin, lorsque Frodo est trop épuisé pour monter la montagne, que le poids de l'anneau est trop lourd pour lui, Sam lui dit, ben, je ne peux peut-être pas porter l'anneau, mais je peux te porter. Et il prend sur lui pour continuer à avancer. C'est probablement, en termes de fiction, un des exemples les plus forts d'un ami incroyable, de l'ami que Sam est pour Frodo, dans l'épreuve extrême que Frodo est en train de vivre, de porter ce fardeau-là, ce poids-là. Mais c'est impressionnant à quel point toutes ces belles histoires n'arrivent pas au niveau de ce que Jésus a fait pour nous. L'humilité que dont Jésus a fait preuve, la souffrance que Jésus a été prêt à porter à la croix pour nous, le fait qu'il n'avait pas besoin de le porter, puis en plus, ce n'était même pas une amitié réciproque, là. Ce n'était pas réciproque l'amitié en Jésus puis nous. Lui est venu nous sauver avant même qu'on le lui demande. Dieu a initié. Jésus est venu nous chercher. Il est venu souffrir pour nous. Et toute amitié de ce monde, en fait, peut être une pâle comparaison de l'amitié qu'on peut avoir avec Jésus et de ce que lui a fait pour nous, le genre d'ami que lui a été pour nous. Chers amis, en terminant, on a parlé de relations aujourd'hui, mais je voudrais juste vous rappeler que la nature de chacune de nos relations va être profondément influencée par notre relation avec Jésus-Christ. Si on n'a pas une relation solide avec Jésus-Christ, alors l'orgueil, la colère, l'égoïsme ressortent très, très, très naturellement. Mais si on vit en communion avec Jésus, qu'on suit ses instructions, qu'on se laisse remplir par son esprit, qu'on le suit, alors là, chacune de nos relations vont être meilleures. Ou peut-être que ça va nous appeler à faire des choses difficiles dans nos relations qu'on n'aurait pas osées, mais que par amour pour Jésus, on va oser le faire. Parce que si on cherche notre sauveur dans des relations humaines, on va toujours être déçu, puis on ne pourra pas être les bons amis qu'on est appelé à être. On ne sera jamais pleinement heureux dans nos relations humaines. On ne sera jamais pleinement heureux dans notre mariage, pardon. On ne sera jamais pleinement satisfait de notre relation avec nos enfants, si on s'attend d'un être humain qui soit notre sauveur, qui soit notre meilleur ami, on va toujours être déçu. Puis en plus, on n'osera pas faire ce que les bons amis doivent faire. On n'osera pas reprendre, on n'osera pas conseiller ou dire les choses difficiles parce qu'on va vivre pour l'approbation de ces gens-là. Notre relation avec Jésus est garante de notre relation avec, de toutes nos autres relations. Si nous avons trouvé notre Sauveur en Jésus, alors nous avons trouvé tout ce dont nous avons besoin dans son amitié, dans ses soins, dans sa justice, dans sa paix, dans sa joie. Nous pouvons alors faire face aux difficultés de vivre des relations avec d'autres pécheurs comme nous. Jésus vous aime comme personne d'autre. Cherchez en lui votre meilleur ami et allons, forts de cette relation avec Christ, soyons les amis que Dieu nous appelle à être pour ceux qui nous entourent.